Michel Portier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général d'Agritel. On va parler avec vous des matières premières agricoles, hein, qui est votre savoir-faire, puisque vous conseillez les professionnels sur ce domaine. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'en début d'année, on a peu parlé de ces matières premières agricoles. On les avait presque oubliées. Puis, elles sont revenues avec des questions sur les prix, hein, des flambées qui ont été assez rapides. Si on fait un petit retour en arrière, pourquoi finalement on n'en avait pas trop parlé au cours des derniers mois? Il se passait rien sur ces matières premières agricoles?
On n'en avait pas trop parlé parce que la spécificité des matières premières agricoles, c'est qu'elles évoluent en fonction du climat. Et donc, bon, l'hiver dernier, il n'y a rien eu de très spécial, si ce n'est un tout petit peu de gel, notamment sur l'est de la France, puisqu'on a connu un mois de février très froid. Et finalement, le marché était tombé dans une sorte de léthargie. Il n'y avait rien de très spécial à se mettre sous la dent. Et puis on est revenu dessus assez rapidement à partir, on va dire, du mois de mai, lorsqu'on a constaté un début de déficit hydrique, notamment sur les États-Unis. Et ce déficit hydrique, il a perduré et il perdure encore jusqu'à ce jour. Et on a enregistré un déficit hydrique historique depuis que les météorologues mesurent les conditions climatiques sur ce continent. On a un manque de pluviométrie historique aux États-Unis qui a pour conséquence effectivement une baisse de la production essentiellement de maïs. Il faut rappeler que les États-Unis sont le premier producteur de maïs au monde et que dans ce contexte, une chute brutale de la production de maïs sur les États-Unis engendre une pénurie quasiment de maïs sur le marché mondial.
Alors des questions climatiques effectivement qui sont revenues au centre des inquiétudes, et puis on pourrait dire aussi qu'en Europe on a eu aussi des phénomènes de sécheresse dans des zones importantes sur le plan agricole.
Tout à fait, on fait un remake notamment sur les Balkans, on va dire. La France a été épargnée, heureusement, pour les producteurs. La France a été assez épargnée cette année, mais on a eu une sécheresse importante sur le sud de l'Europe, sur les Balkans, et notamment une sécheresse extrêmement importante, comparable à celle de 2010, sur la Russie. Et ça, ça a été à nouveau la surprise, puisque la Russie a eu un incident climatique qui a conduit la Russie à mettre des interdictions à l'export, mettre un embargo à l'export en 2010, le 5 août 2010 pour être précis, qui avait eu pour conséquence l'envolée des cours mondiaux du blé. Et cette année, aux surprises, la Russie ne fera pas mieux qu'en 2010, ce qui amène tous les opérateurs à se poser la question, on a notamment une réunion bientôt, à se poser la question, est-ce que la Russie va faire un remake comme en 2010, c'est-à-dire mettre un embargo à l'export? Il faut savoir que la Russie compte parmi les premiers exportateurs mondiaux de blé sur la scène internationale.
On pourrait dire qu'en face, en termes de consommation, on aurait pu être, compte tenu des problèmes, par exemple, dans la zone euro, mais aussi finalement aux États-Unis, de ralentissement économique, finalement, on avait moins de demandes. Ce n'est pas forcément le cas encore aujourd'hui.
C'est extrêmement compliqué sur les marchés agricoles, effectivement. Si on arrive à mesurer l'offre, parce qu'on va mesurer la production, et lorsqu'on récolte un champ de blé, un champ de maïs, un champ de soja, on a une quantité bien définie de l'offre et on arrive à avoir des drivers et une bonne visibilité sur l'offre, on a énormément de difficultés sur la demande. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un produit avec une spécificité, on est sur une demande quasiment inélastique. Se nourrir, il faut se nourrir. Donc, où est-ce qu'on peut avoir un peu d'élasticité sur les produits agricoles ? C'est éventuellement dans la filière biocarburant, notamment dans la filière éthanol. Rappelons que les États-Unis consomment à eux seuls deux fois, l'équivalent de deux fois la production de maïs européenne, rien que pour la filière éthanol. Donc effectivement, on a une certaine inélasticité sur la demande par rapport au prix. Donc mesurer la demande, c'est extrêmement compliqué, beaucoup plus compliqué que l'offre. Vous avez tout à fait raison, on a et on anticipe déjà une baisse de la demande, mais cette baisse de la demande devra être importante pour pouvoir équilibrer la bilan. Tant l'offre a été déficitaire cette année.
Alors vous parliez de l'éthanol, hein, c'est vrai que c'est un sujet polémique effectivement, y compris aux États-Unis, et puis en même temps il y a une pression forte des producteurs d'éthanol pour que ça continue. On n'a pas l'impression que ça va changer dans les prochains mois, c'est-à-dire qu'on réduirait cette proportion de maïs qui ira effectivement au final pour le carburant.
Non, mais ça ne peut pas changer, à mon avis. Il faut quand même bien se mettre en tête que si, en France, en Europe, d'une manière générale, l'éthanol représente une infime partie de la consommation et de l'utilisation des céréales, de l'ordre de 6% à peu près. Aux États-Unis, on a une vraie filière industrielle qui a été construite. Allez demander aux États-Unis d'arrêter plus de 200 usines. ce sont plus de 200 usines aux États-Unis qui produisent de l'éthanol. On ne veut pas du jour au lendemain détruire tout un pan de l'économie. Hein, ce que disent les Américains, j'ai discuté, j'étais avec eux la semaine dernière à Chicago, « it's too big to fail ». Donc c'est trop gros pour pouvoir arrêter ce mécanisme. Donc la filière éthanol, même si le Sénat américain décidait par exemple de réviser à la baisse les taux d'incorporation obligatoires d'éthanol dans la filière éthanol vit sa propre vie. Il y a un vrai marché de l'éthanol. Et même si le Sénat américain décide de réduire le taux d'incorporation, s'il est rentable de faire de l'éthanol, on continuera à produire de l'éthanol. Et on sait très bien qu'il y a, par définition, un lien très fort entre l'éthanol et le pétrole. Donc, si le pétrole continue à monter, automatiquement, l'éthanol continuera aussi à monter.
Alors, du côté des perspectives, on voit bien que ce contexte, hein, est devenu très, très sensible, ce contexte sur les matières premières agricoles. Est-ce que ça veut dire que, de votre point de vue, en termes de prix, alors même si on a on voit au jour le jour, hein, j'ai pu lire certaines dépêches sur les marchés américains où on parlait de panique au jour le jour, effectivement, sur ces prix qui touchaient de nouveau plus haut. On est dans ce contexte-là, pour l'instant, tendu.
Les matières premières agricoles, de toute façon, sont dans une tendance haussière, d'un point de vue structurel. Alors, avec une volatilité à la journée ou à la semaine extrêmement importante, un petit peu comme tous les marchés, ce d'autant plus qu'il y a une certaine financiarisation des marchés agricoles. Ça, c'est peut-être un petit peu nouveau. Il est clair que pour les investisseurs, le marché des matières premières agricoles, des commodities agricoles, font un petit peu office de valeur refuge. Quand on voit l'incertitude sur les marchés obligataires ou sur les marchés actions, au moins, on est certain que là, on a quelque chose de physique en face de nous et que la demande est structurellement à la hausse. Pourquoi ? Parce qu'il y aura 2 milliards d'habitants de plus dans les 30-40 années à venir, et parce que la demande asiatique, chinoise notamment, est en train d'exploser. Il faut quand même bien imaginer qu'en 2000, quasiment les Chinois importaient quasiment pas de soja. Aujourd'hui, ils importent l'équivalent de la production du Brésil, deuxième producteur de soja au monde, avec 65-70 millions de tonnes par an. Donc, effectivement, on a une demande qui est croissante, structurellement croissante. On a une offre qui est de plus en plus aléatoire. Pourquoi ? Parce que le climat est de plus en plus adverse. On a une adversité climatique hors normes. On passe de situation de sécheresse à situation d'inondation en l'espace de quelques jours. On passe d'une situation de température extrêmement élevée à du gel, comme on a pu avoir sur l'est de la France au printemps dernier. Donc, systématiquement, on est sur un secteur, les matières premières agricoles, qui est un secteur porteur, qui est un secteur structurellement haussier. Maintenant, à l'intérieur de ce canal haussier, on a une volatilité extrêmement importante liée à une surréaction des marchés, liée à une mondialisation des marchés. Et cette année, on est quand même dans une situation inédite. La dernière fois qu'on a eu des émeutes de la faim, c'était printemps 2008, c'était suite à la sécheresse hémisphère nord de la récolte 2007. Ensuite, on a eu 2010, la sécheresse et les incendies en Russie. Pour moi, 2012 est pire que 2007 et 2010. Pourquoi ça ? Parce qu'on a deux incidents climatiques majeurs sur les États-Unis et la Russie, deux acteurs majeurs. Ensuite, sur les trois principaux produits agricoles, cet incident climatique touche le blé en Russie, touche le soja et le maïs aux États-Unis. Donc on a les trois principales cultures après le riz, hein, le riz qui, par contre, lui, est une matière première qui s'échange assez peu sur le marché mondial, puisqu'elle est consommée essentiellement en Asie et produite en Asie, ça s'échange assez peu. Mais les trois premières matières premières agricoles qui s'échangent sur la scène internationale, on est dans une situation inédite en termes de stock.
En conclusion, ça veut dire que d'ores et déjà, pour ceux qui se projettent, pour les investisseurs qui se projettent, 2013, on reste 2012-2013, on est sur un cycle.
Il est clair que 2013, d'abord, on le voit bien sur les marchés futurs. Hein, il suffit de regarder les cotations du colza, du soja, du maïs sur 2013, sur les cotations 2013, récolte 2013. On est déjà sur une situation tendue. On peut raisonnablement pas imaginer qu'on ait une chute des prix, sauf événement majeur tel que celui qu'on a eu en 2008. En 2008, on disait à peu près la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sherson Lehman est arrivé. Donc, est-ce que va arriver en 2012-2013 une faillite bancaire ou une faillite d'un chargeur international retentissante ? Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas prévoir. Mais en tout état de cause, sauf événement majeur, on restera structurellement sur une tension des prix.
Merci Michel Portier d'avoir fait le point avec nous. Vous êtes donc le directeur général d'Agritel.
Merci.